Charles Dickens. Paris et Londres en 1793, ou Le Marquis de Saint-Évremond. Livre 1. Résurrection. Chapitre 1. En 1775. C'était le meilleur et le pire de tous les temps, le siècle de la folie et celui de la sagesse. Une époque de foi et d'incrédulité, une période de lumière et de ténèbres, d'espérance et de désespoir, où l'on avait devant soi l'horizon le plus brillant, la nuit la plus profonde, où l'on allait droit au ciel et tout droit à l'enfer. Bref, c'était un siècle si différent d'une autre que, suivant l'opinion des autorités les plus marquantes, on ne peut en parler qu'au superlatif, soit en bien, soit en mal. En ce temps-là, un roi pourvu d'une forte mâchoire et une reine ayant un laid visage régnait en Angleterre, pendant qu'un roi pourvu d'une mâchoire non moins forte et une reine ayant un beau visage occupait le trône de France. Dans l'un et dans l'autre pays, il était plus clair que le cristal, pour tous les grands de l'État, que le miracle de la multiplication des pains se renouvelait tous les jours et que l'ordre des choses établies ne devait jamais changer. À cette époque favorisée du ciel, des révélations de l'autre monde étaient, comme aujourd'hui, concédées à la Grande-Bretagne. Un prophète, simple garde du corps, avait annoncé que le jour où Mistress Southcott accomplirait sa 25e année, un gouffre, déjà prêt à s'ouvrir, engloutirait Londres et Westminster. Et c'est tout au plus il y avait 12 ans que l'esprit de Cocklane avait frappé ces messages, absolument comme les esprits de l'année dernière, entièrement dépourvus d'originalité, nous ont frappé les leurs. De simples nouvelles, d'un ordre beaucoup plus terrestre, était parvenu depuis peu en Angleterre, relativement à un congrès formé en Amérique par des sujets de la Grande-Bretagne. Nouvelles qui, chose étrange, acquirent plus d'importance pour les humains que toutes les communications transmises par la race des médiums. La France, moins favorisée en matière de spiritisme, roulait avec quiétude sur une pente d'une douceur infinie. Elle faisait du papier monnaie qu'elle se hâtait de dépenser, et, sous la conduite de ses pasteurs chrétiens, se divertissait à des actes remplis d'humanité, par exemple à brûler vif un jeune homme, après lui avoir coupé les mains et arraché la langue, pour ne pas s'être agenouillé, sous la pluie, en l'honneur d'une procession de moines crasseux qui passait à 50 mètres de l'endroit où il se trouvait. Le jour de ce martyre, il poussait dans les grands bois de France et de Norvège des arbres que le destin, puissant bûcheron, avait déjà marqués pour être abattus, afin que de leurs madriers on pût construire un échafaudage mobile, pourvu d'un couteau et d'un sac, et dont l'histoire devait garder un terrible souvenir. Ce jour-là, sous les hangars de quelques-uns des laboureurs qui cultivaient les terres des environs de Paris, s'abritaient de grossières charrettes couvertes de boue, flairés par les cochons et servant de perchoir aux volailles, que la mort, fermière universelle, avait déjà choisie pour en faire les pourvoyeuses de la hache révolutionnaire. Mais bien qu'ils agissent sans cesse, le destin et la mort ne travaillent qu'en silence, et personne n'entendait le bruit étouffé de leurs pas, d'autant plus qu'il suffisait de soupçonner leur éveil pour se faire accuser de traîtrise et d'athéisme. En Angleterre, c'est à peine s'il y avait assez d'ordre, et si la vie et les biens des habitants étaient suffisamment protégés pour justifier la jactance nationale. Des vols à main armée, d'audacieuses effractions, avaient lieu chaque nuit au sein même de la capitale. Les familles étaient publiquement averties de ne pas quitter la ville sans avoir déposé leurs meubles chez le tapissier, afin d'être plus sûres de les retrouver à leur retour. Le brigand nocturne se transformait, à la clarté du soleil, en marchand de la cité, reconnu et défié par son confrère, il l'arrêtait en vertu de son titre de capitaine, lui cassait galamment la tête et s'enfuyait à cheval. Le courrier tombait dans une embuscade où l'attendaient 7 voleurs. 3 de ceux-ci étaient tués par le garde qui accompagnait les dépêches et qui, manquant de munitions, était tué à son tour par le 4e bandit, après quoi la malle était pillée à loisir. Le Lord Maire de Londres, ce puissant potentat, se voyait contraint d'obéir à un des trousseurs qui lui demandait la bourse ou la vie et qui dépouillait l'illustre personnage en présence de ses nombreux laquais. Les prisonniers se battaient avec la geôle et la loi, dans sa majesté, déchargeait à bout portant ses espingoles sur les mutins. Des filous enlevaient les croix de diamants sur la poitrine des nobles lords jusque dans les salons de la cour. Des mousquetaires allaient au quartier Saint-Gilles pour y saisir des marchandises de contrebande. La canaille tirait sur les mousquetaires sur la canaille, et personne ne s'inquiétait d'un fait qui s'éloignait peu de la voie commune. Au milieu de tout cela, le bourreau, fort occupé, était mis sans cesse en réquisition. Tantôt il pendait en longue rangée des criminels de toute espèce. Tantôt il étranglait le samedi un briseur de volets arrêté le mardi précédent. Le matin, il marquait à Newgate les gens à la douzaine, et le soir, il brûlait des pamphlets à la porte de Westminster. Aujourd'hui, c'était la vie d'un horrible assassin qu'il allait prendre, demain, celle d'un misérable qui avait volé 12 sous à l'enfant d'un fermier. Tout cela se passait en France et en Angleterre en l'an de grâce 1775. Et dans ce milieu, tandis que le destin et la mort travaillaient inaperçus, les deux rois à la forte mâchoire et les deux reines, l'une belle, l'autre laide, marchaient avec fracas, portant leur droit divin d'une main haute et ferme. Ainsi, disons-nous, cette bonne vieille année 1775 conduisait leur grandeur et des myriades d'infimes créatures sur les divers chemins qu'elles avaient à parcourir.